Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode du fauteuil consacré au final de conférence NFL. Très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines et je m'excuse du petit retard. Nous avons 5 minutes de retard, un petit problème de matériel. Je m'excuse encore une fois. Je vérifie que tout va bien. On est impeccable. Bonjour à ceux qui arrivent sur le chat. Je vais mettre l'article sur le site et le lien sur les réseaux sociaux et nous serons partis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour les très belles finales de conférence qui nous attendent. Ça va être très très sympa. Moi, j'aime bien dire que c'est la journée la plus longue de l'année parce que les deux finales de conférence à la suite, c'est un peu le dimanche de fête avant le dimanche de fête parce que le Super Bowl, c'est quand même une ambiance un peu différente. On peut quand même dire ça comme ça. J'ai fait une petite erreur de cop-call sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Bonjour à Jean-Baptiste, à Tarsvelder, à Julien, Philippe, Fabrice, Tom. Et je vais couper mon retour, sinon ça va faire un écho de l'enfer. Bonjour à Flo, à tout le monde. Non, il n'y a pas de retard, ne vous en faites pas, c'est moi qui étais en retard. Là, je mets le lien sur Facebook et on est parti. Le sommaire, donc la semaine dernière, on a parlé des meilleurs défenseurs de la NFL. On va parler cette semaine des meilleurs joueurs offensifs. Alors, plutôt que de prendre les équipes All-Pro et de faire des oubliés, j'ai pas trouvé que ça a été formidable au niveau du rendu la semaine dernière. Donc, ce qu'on va faire plus simplement, c'est une équipe type offensive de la saison. Et c'est pour ça que j'ai titré de manière très, très putassière, je dois l'avouer, Lamar Jackson ou Russell Wilson, puisqu'on se posera cette question-là au poste de quarterback. Voilà donc pour le programme. On n'a pas de match à débriefer cette semaine parce qu'il n'y a pas eu de match encore. On parlera évidemment quand même des finales de conférence. On va prendre vos questions, n'hésitez pas à les mettre si vous en avez dès maintenant. On va donner les meilleurs codes Unibet, puisque je vous rappelle que cette émission du dimanche vous est présentée par notre partenaire Unibet. C'est les meilleurs codes sur la NFL, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mets le lien sur le chat comme toutes les semaines. Je mets le lien comme toutes les semaines, donc je le disais. Et vous pouvez regarder les finales de conférence sur Unibet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mets le lien du Tipeee aussi. Sur le chat, le Tipeee où on aura une annonce d'ici la fin de la saison d'ailleurs aussi. Madon va mieux, oui, Flo, c'est le moment où on raconte ma vie, normalement c'est à la fin de l'émission, mais j'ai un pansement et c'est en cours de traitement, j'y retourne là, mardi, ça va être... Oui, je l'avais dit, le clou girofle c'était pas mal la semaine dernière, mais le dentiste c'est mieux encore, donc ça avance doucement, disons. Je peux pas manger trop j'ai une grosse frustration, je peux pas trop manger baguette de campagne et gros pain et tout sur les dents en ce moment, donc c'est un peu la tristesse. Mais bon, je mange mes fromages sur des pains plus mous. Donc, on est à peu près là. Je donne le nom du vainqueur. En effet, Nick Bossa, le maillot va partir chez un de nos abonnés Twitter. Son pseudo, c'est @real_flash avec 2 H. Et je ne lui ai pas encore envoyé le message pour lui signaler qu'il a gagné, mais je vais faire ça très bientôt pour lui demander, évidemment, son adresse. Plus de fromage, dit Arnaud. Si, il y en a quand même, il est juste devant moi. C'est ce que je disais, il faut juste que j'aménage sur quoi je vais le manger. Et évidemment, il y aura du fromage au Super Bowl. Tiens, j'en profite, petite note programmation, parce que à partir de demain, évidemment, ou à partir d'aujourd'hui, si vous nous écoutez en replay, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission en podcast, à partir donc de lundi, en tout cas, on rentre dans la quinzaine Super Bowl. Alors, c'est une tradition hein, depuis que le site existe. C'est-à-dire qu'on a 15 jours d'articles sur le Super Bowl. Tous les jours, le stade, la saison de l'équipe NFC, un portrait d'un joueur, un portrait... Enfin, il y a beaucoup de choses. On revient sur l'équipe, les blessés, les clés du match. Je vais pas tout faire, mais on va mettre ça sur le site demain. Et une des nouveautés de cette année... Alors, la nouveauté, c'est pas le fauteuil. L'an dernier, il y avait eu un fauteuil de 2 heures, hein, de 22h à minuit, minuit et demi, on avait fait. La nouveauté, c'est que... Là, tel que vous me voyez, c'est le dernier fauteuil de l'année où je suis seul. Je ne serai pas seul au moment du Super Bowl. Il y aura pas mal de monde avec moi. On rentre qu'à deux sur le fauteuil. Donc, a priori, ça tournera pendant l'émission. Ça tournera à côté de moi. Voilà pour les présentations et je vais vous donner un petit peu, je vais répondre un petit peu, alors il y aura la lampe, ouais, il y aura toujours la lampe, évidemment, elle est très bien ma lampe, donc je vais répondre aux premières questions qui se passent. Alors, soirée Super Bowl pour l'instant, on attend la réponse, le Hard Rock Café va communiquer dessus, mais pour l'instant c'est pas sûr. Qui part à Miami cette année, Nicolas? C'est Raoul. Ce sera dans l'article de demain où on annonce tous les articles Super Bowl, mais donc Raoul sera sur place à Miami, et donc c'est lui qui prendra la main sur les réseaux sociaux du site, notamment le Twitter @TDActu, le Instagram @TouchdownActu, etc., et le Facebook @TDActu, où il mettra des photos, des trucs, enfin voilà, il va être au taquet pour vous faire vivre ça. Est-ce qu'il a mis son ISTS, son passeport? A priori tout est bon, voilà. A priori tout est bon pour l'instant, tout va bien. Jason Garrett, coordinateur offensif des Giants, est-ce que c'est une bonne idée? Après, c'est quand même un coach qui a eu des relatives réussites à Dallas ces dernières années. S'il est déchargé du poids des responsabilités de head coach, c'est pas forcément un mauvais choix. Après, c'est un ancien de la maison, en fait, il a joué aux Giants. C'est à voir. Honnêtement, j'ai toujours du mal à m'exprimer. Je suis pas le plus grand spécialiste des coachs de l'équipe. Ça peut être une embauche correcte. Après, il va pas révolutionner grand chose. Il va demander des conseils à Winston pour les boîtes de nuit. Oui, pour l'instant, on ne sait que si Raoul va à l'aéroport, en effet. Après, on verra bien. Je remonte un petit peu, je vais éluder les questions sur Raoul, hein, vous m'excuserez. On a fait le tour, je pense. J'en avais vu passer une. Alors attendez, est-ce que j'ai vu la mini-série Netflix sur Aaron Hernandez? Je me la conseille, Saturne. Mais alors Saturne, tu me demandes si je l'ai vu alors que j'ai écrit un article sur le site exprès. C'est pour ça que je prends la question, c'est pour faire une petite auto-promo éhontée, mais la critique du documentaire Netflix sur Aaron Hernandez est sur TD Actu, parce qu'en effet, je l'ai regardé le jour où elle est sortie et que on a écrit, j'ai écrit du coup une critique le jour suivant. J'essaie de la retrouver pour vous mettre le lien. Elle doit pas être très loin, voilà. Mais oui, moi, j'ai pas forcément hyper accroché. J'ai trouvé ça un peu décousu. Je vous ai mis le lien sur le chat. J'ai trouvé ça un petit peu décousu et je trouve que le podcast du Boston Globe, alors faut être anglophone, mais le podcast du Boston Globe était mieux foutu. J'ai trouvé avec à peu près les mêmes témoignages. Il y a Chris Borland aussi. Il y a O'Shaughnessy, le joueur des Patriots aussi, je crois. Mais il y a Brandon Lloyd en plus. Il y a voilà. Et je trouve qu'au final, c'est plus immersif et ouais. Je trouve ça un peu plus réussi. Après, le docu Netflix, pour quelqu'un qui connaît pas l'histoire, rappelle quand même bien tout. Moi, il y avait des choses qui m'avaient échappé. J'avais oublié à quel point le système de surveillance chez lui avait tout filmé, etc. Donc ça récapitule bien l'histoire. Après, je le dis bien dans l'article, je pense, j'ai eu plus de mal à me mettre dedans. J'ai eu un peu plus de mal à me mettre dedans. Je croyais que la nouveauté, c'était les aventures de Raoul à Atlanta. Ça va être la période des marronniers sur le site, dit Wawa. Oui, ouais, là on est dans la période des marronniers, au sens où tous les ans on vous présente le stade dans lequel a lieu le Super Bowl, l'histoire de chaque équipe. Alors on a changé les papiers histoire, je vous le dis d'avance, je crois que Sébastien est sur le chat et on le remercie, Sébastien Polomeni qui nous écrit tout ça. Ça va être remixé hein, cette année, les papiers histoire, avec l'histoire des couleurs des équipes, des logos, des couleurs, enfin du nom, pardon, voilà ce que je cherchais. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui changent là-dessus. Et puis après, les portraits seront inédits, donc le parcours des équipes, les blessés, on va présenter les coachs. Alors pour une fois qu'il n'y a pas Bill Belichick, a priori ça devrait être des nouveaux portraits de coachs. Il y a pas mal de choses, une des stars de l'équipe, etc. Enfin voilà, il y aura pas mal de choses. Et l'idée, c'est quand même, On aime bien avoir ce dossier Super Bowl. Peut-être qu'il y a quelques redites pour les gens qui sont hardcore et qui suivent toute l'année, mais on aime bien avoir ce dossier parce que du coup, n'importe qui, on espère, qui découvre le site à ce moment-là, hop, il peut lire, il peut se potasser le dossier Super Bowl et savoir dans quoi il s'engage. Alors, les Chiefs ont beaucoup parlé maintenant, faut assumer, dit Axel. Alors oui, première info de la soirée, Chris Jones est actif pour les Chiefs et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les la ligne défensive de cette équipe. Penses-tu que les Chiefs ont trop parlé avant le match, Hill et Clark, et que ça peut jouer sur leur concentration et sur la motivation des Titans? C'est trop New Emery qui nous demande ça. C'est dur à dire, honnêtement. Pour moi, c'est de la psychologie de comptoir d'être à distance. On peut pas savoir. Je pense que tout le monde réagit différemment à ce genre de propos-là. Donc, c'est hyper difficile de savoir quelle influence ça a sur eux. Les propos de Frank Clark qui dit que Derrick Henry, pour lui, est pas si difficile que ça à plaquer, etc. Bon, voilà. Mais je pense pas que ça va faire courir Derrick Henry encore plus fort. Je vois pas comment il peut courir encore plus fort que ces dernières semaines. Donc non, honnêtement. Honnêtement, je pense pas que ça joue énormément. Plus sur Frank Clark que Derrick Henry, presque. Mais oui, non, je suis pas hyper convaincu que ça joue beaucoup. Est-ce que Andy Reid joue sa réputation s'il va pas au Super Bowl? Question de Gus. Non, je pense pas. La réputation d'Andy Reid. Le truc, c'est que ça, comment dire? Il a déjà une réputation plus ou moins loser affirmée. C'est-à-dire qu'il a joué 6 finales de conférence, il en a gagné qu'une. Une de plus, une de moins à ce niveau-là, je pense que ce qui changerait sa réputation, ce serait justement d'aller au bout maintenant. Et c'est vrai que cette année, c'est pas marronnier, il n'y a pas les pads d'ICM, ça c'est sûr. Je ne connaissais pas vraiment l'histoire d'Aaron, alors j'ai bien aimé ce documentaire perso, dit Fabien. Oui, non mais voilà, hein, quand on ne connaît pas, il n'y a pas de souci. Hein. Nicolas qui demande le stream Unibet, est-ce qu'on a les commentaires US? Oui, c'est en VO hein, sur les streams Unibet. Alors, tac tac tac. Excusez-moi, des fois je fais des erreurs de modération, je clique sur le mauvais truc. J'ai déjà des petits yeux, non, c'est mes yeux naturels, mais ils sont petits, ouais. Non, j'ai plutôt dormi ce week-end en préparation. Hein. C'est du sport quand même, parce que moi, du coup, ça demande une vie un peu monastique, si vous voulez, pendant la saison, et notamment pendant le mois de janvier. Le samedi, moi, je fais la fête jusqu'à 21h30, 22h, et je me couche. C'est mon rythme. J'ai pronostiqué les Packers gagnants, faut assumer. Qui a dit ça? Il vient de défiler. J'ai pas mis les Packers gagnants, j'ai mis les Chiefs dans le bracket des playoffs au début de la semaine. Hein. Est-ce que j'avais dit les Packers au début de l'année peut-être? C'est pas impossible, hein, attention, je dis pas le contraire. Mais là, au début des playoffs, en tout cas, on a fait des brackets, j'ai mis les Packers. J'ai mis les Chiefs, ben voilà, la puce. Et oui, après, en effet, ça se joue sur les pronostics là dans l'équipe. Je croise les doigts pour les Packers, ça me ferait repasser devant. Garoppolo a bien gagné un Super Bowl en tant que remplaçant, demande Florian. Oui, il a gagné un Super Bowl en tant que remplaçant. C'était le Patriots Seahawks, qui était donc le Super Bowl 49, joué à Phoenix contre les Seahawks. Et je m'en rappelle bien parce que j'avais la chance de l'avoir couvert et du coup j'avais croisé Jimmy Garoppolo dans les vestiaires après le match et il est incroyablement beau gosse, c'est Ken. Voilà, ça m'avait fait marrer parce que c'est le prototype vivant du quarterback de série télé. Il m'avait fait trop rire, il est impeccable. Alain est devenu vieux, il pouvait encore tenir des nuits blanches l'an dernier, dit Degan. Ouais, j'en fais tous les ans, hein, mais c'est vrai qu'avec l'âge, de moins en moins, ça c'est sûr. Mais après, je m'organise mieux. Je mange mieux, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais je bois de l'eau, là j'ai des légumes pour ce soir. Voilà, pas trop de sucre, de machin, bon, voilà. Et je me couche tôt. C'est le chat QB de lycée, ouais, un peu. Le nom du podcast, alors Gigino, je pense que tu demandes pour celui sur Aaron Hernandez, c'est le Boston Globe, ça s'appelle Gladiator. Hop là. Quand tu regardes un match, es-tu plutôt festival offensif type Chiefs ou solidité défensive type Niners? Je suis plutôt équilibre. C'est-à-dire que, honnêtement, je ne vais pas mentir, les gros, gros trucs bloqués défensifs comme le Super Bowl de l'an dernier, ça m'ennuie. Mais le trop, trop, trop offensif comme le Super Bowl de l'année d'avance, ça m'ennuie aussi en un sens parce que j'en ai marre en fait que personne ne stoppe personne. Je dirais que l'équilibre, moi j'avais vraiment adoré le Super Bowl entre les Patriots et les Seahawks parce que les défenses jouaient bien ce qui forçait à jouer les attaques encore mieux. Donc tout se méritait, tout était très 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 dur, mais il y a des moments où ça passait, et ça c'est quand même c'était quand même plutôt pas mal. Est-ce que j'ai pu voir le trophée Lombardi dans le vestiaire des Patriots? Oui. De mémoire, je me demande si je l'ai pas vu. Je crois que c'était Malcolm Butler. Non, je crois que c'est Robert Kraft qui est arrivé avec. Et après, il était allé voir Malcolm Butler et ils avaient discuté un peu et tout ça. Mais oui, de mémoire, ouais, le trophée traînait dans les vestiaires. Quel est le membre de TDA qui est le plus gros joueur de Paris Sportif? Je dirais que c'est Raphaël, à vue de pif. Les Niners peuvent-ils limiter à moins de 10 points les Packers? Question de Vincent. Ouah, ça me paraît compliqué quand même. Même s'ils sont très très bons en défense. Mais c'est très très dur. Nous sommes d'accord, personne n'est sûrement pas la défense de Kansas City pour stopper Derrick Henry. Le mec est le leader sur les courses, même à 8 joueurs ou plus dans la boîte. C'est pas Kessie qui va le stopper, dit Clément. C'est vrai qu'ils sont pas du tout armés pour. On l'a dit dans l'émission de preview, ils sont à 4,8 ou 4,9 yards par course encaissée. C'est très très élevé. Donc c'est vraiment un très mauvais match-up pour eux. Après, on a déjà vu des plus grosses surprises. N'oubliez pas qu'on est en play-off, n'oubliez pas que ça se joue sur un match, qu'il peut y avoir un très bon plan de jeu. Je fais le vieux et je reviens au Super Bowl de 2002 où on dit que jamais les Patriots pourront arrêter les Rams et que finalement c'est un match très fermé, ou au Super Bowl de 2008 où on dit que les Giants pourront jamais arrêter les Patriots et que finalement c'est un match très fermé. Donc voilà, c'est vraiment oui sur le papier. Mais c'est pour ça, en plus, moi, c'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand les gens nous reprochent, vous avez pronostiqué tel ou un tel ou un tel. Sur le papier, il y a toujours des choses qui ressortent. Mais dans les faits, aujourd'hui, on ne peut pas savoir si... évidemment, Derrick Henry a l'avantage sur le match-up. Mais voilà, s'il y a un bon plan de jeu, s'il y a un coup de mou, s'il y a une blessure d'un lineman, s'il y a un machin, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Faut-il creuser une vraie tranchée pour arrêter Derrick Henry? Oui, bah oui, il aura plus de mal à en ressortir qu'à courir, ça c'est sûr. Non, Robert Kraft n'était pas arrivé avec des amis à lui, Bertrand, dans le vestiaire. Non, il n'y avait pas de ce genre de choses-là. Alors, hop là. Donc, je regardais un petit peu vos questions. On va passer au... thème de la semaine, quand même. Le Garoppolo est à l'image de la société US, tout parfait et caricatural, dit Géant Bleu. Non mais je vous jure, ouais, c'était impressionnant. Jean-Baptiste, c'est ton seul boulot, Alain. Alors ça dépend de quoi on parle, de parler devant vous ou du site. Si la question c'est le site en général, oui. Enfin oui, avec une aparté, je bosse encore un peu avec Basket USA. Mais sinon, oui, je fais que le site. On salue Basket USA. Donc, le thème de la semaine, les joueurs offensifs de l'année. Alors, le jersey de McCaffrey est toujours là, je suis OK pour le récupérer. Ils sont tous là, je préviens, même les vainqueurs qui regardent, leurs maillots sont réservés, mais je fais tous les envois après la saison. Parce que je suis un peu feignasse pour aller à la poste. Donc, je vais prendre une journée où je vais envoyer tous les lots de l'année. Et ce sera fait. Donc, on disait le thème de la semaine, les joueurs offensifs. Non, je mange pas de fromage sur les maillots, je vous promets, j'y fais gaffe. Ils sont bien rangés, repliés après chaque émission dans une petite boîte et je les ressors que pour l'émission. Donc, je le disais, le thème de la semaine, les joueurs offensifs de l'année. Plutôt que de faire les ignorés du Pro Bowl, on fait donc une équipe idéale directement. Pas du Pro Bowl, du All Pro, pardon. Là, le truc, c'est que évidemment, il y a énormément de joueurs des équipes All-Pro qui vont revenir. On ne va pas se le cacher. La question numéro 1, et on l'a dit, qui était un peu putaclic et qui était un peu putassière. Alors, je transmets. Ma femme me dit qu'il faut que tu te rases le crâne pour faire stylé avec ta barbe. Rasé, je ne suis pas encore prêt quand même. Ouais, non, je ne suis pas encore tout à fait prêt. Donc, surtout que je me suis gouré de sabots et que je me suis raccourci la barbe cet après-midi, donc sans le vouloir. Donc, j'attends qu'il repousse un peu plus. Donc, on en revient au All Pro, je le disais. La réponse à la question 1, c'est Wilson, passe à la 2. Alors, la question c'est Wilson, passe à la 2. J'ai pas tout compris. Donc, autant pour moi. Où tu mets un casque et tu ressembles... Ouais, au pire, une fois que j'aurai plus de cheveux, j'animerai l'émission avec un casque. Parce que les casquettes et tout ça, ça me va pas. Ou avec le bonnet, sinon. Donc, je le disais, la grande question, c'est Wilson ou Lamar Jackson. Je vous donne un petit peu de stats. Hein, on va vous donner un petit peu de biscuit. Les stats, cette saison, On parle de cette saison. 66,1% de passes complétées pour les deux. Ils ont exactement le même taux de passes complétées. La différence, c'est que Russell Wilson en a tenté beaucoup plus. Il en a tenté 516, alors que Lamar Jackson en a tenté 401. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. C'est donc 25% de plus, grosso modo. Hein. Je suis pas mathématicien. Tout ça pour une réussite de 31 touchdowns, 5 interceptions pour Russell Wilson, et de 36 touchdowns et 6 interceptions pour Lamar Jackson. Est-ce que j'ai le taux d'interception? Mais du coup, le taux d'interception de Lamar Jackson va être plus élevé puisqu'il a une interception de plus alors qu'il a lancé 115 passes de moins. Voilà. Évidemment, la différence se fait au sol. Lamar Jackson a gagné 1206 yards au sol. Il a marqué 7 touchdowns au sol alors que Russell Wilson n'a couru que 342 yards, ce qui est déjà très bien pour un quarterback, et 3 touchdowns, évidemment, au sol. Par match, ça fait 256 yards à la passe pour Wilson et 208 pour Lamar Jackson, et au sol 80 yards pour Lamar Jackson et 21 yards pour Russell Wilson. Donc, après, il y a une grosse différence. Alors, on va se dire qu'on ne fait pas, parce que les All-Pro, je vous le rappelle, c'est par rapport à la saison régulière. Et ce sera le cas aussi pour le MVP. Donc, ne vous étonnez pas si Lamar Jackson est MVP alors qu'il n'a pas fait des bons playoffs et que son équipe est sortie, etc. Les votes pour le MVP sont déjà envoyés. C'est un panel de 50 journalistes, ils envoient leur vote juste à la fin de la saison régulière, donc ça ne compte pas. Est-ce qu'on regarde le matos, etc. C'est un tout. C'est-à-dire qu'en gros, la question pour moi, quand on fait l'équipe type offensive, c'est qui vous voulez avoir dans votre équipe si là, il jouait ce soir. Ma réponse, elle est Russell Wilson, parce que en effet, on l'a vu sur les playoffs. Et attention, c'est pas une critique de Lamar Jackson, ça ne veut pas dire qu'il va pas progresser, ça reste un très jeune quarterback, il a que 22 ans, donc ça reste un gros espoir, mais là sur les playoffs, on l'a vu, c'est encore, il est à un touchdown pour deux interceptions sur les playoffs, Wilson est à deux touchdowns pour zéro interception, alors Wilson a joué deux matchs de playoffs alors que Jackson en a joué qu'un, mais... Alors voilà, Bertrand le dit, si c'est pour constituer l'équipe de la saison, mais Lamar Jackson a été meilleur, je ne suis pas sûr que ce soit aussi absolu et que ce soit aussi évident. C'est-à-dire que Russell Wilson a quand même fait beaucoup avec une équipe qui avait une moins bonne ligne offensive, qui a eu beaucoup de blessés chez les coureurs et qui avait un jeu au sol moins régulier. Alors évidemment, Lamar Jackson participe à la régularité de son jeu au sol, c'est à prendre en compte aussi, mais c'est un tout, je pense pas qu'on puisse être aussi absolu. Je pense pas par exemple que Lamar Jackson soit MVP à l'unanimité. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques votes pour Russell Wilson. Mais sur la saison, et là, la saison étant finie, etc., encore une fois, dans cet esprit un peu où on mélange les perfs de la saison et qui je voudrais ce soir, je reste sur Russell Wilson parce que c'est quand même le quarterback le plus complet des deux, qui a le plus d'expérience. Alors là, on est vraiment sur le côté qui joue dans mon équipe ce soir pour l'expérience, parce que ça compte pas sur la saison, évidemment. Je sais pas, Bertrand dit beaucoup avec peu de receveurs. Alors je sais pas si tu parles avec... Oui, alors évidemment, il a peu de receveurs, Lamar Jackson. Mais encore une fois, il a peu de receveurs. Le boulot d'un quarterback, c'est aussi de mettre en valeur les receveurs. Alors évidemment, dans une certaine limite, il peut pas transformer des peintres en superstars. Mais Russell Wilson travaille bien avec des receveurs qui sont pas toujours des cadors depuis de nombreuses années. Il a fait briller quand même des Jermaine Curse, des Lockett, des machins qui n'étaient pas non plus des superstars en puissance à la base et qui jouent très bien quand même avec lui. Donc encore une fois. Il y a du pour et du contre dans le tout. Jackson a moins de cibles, mais en même temps, il lance moins, donc il peut moins les mettre en valeur, ils peuvent moins faire de stats. C'est mathématique. Donc, est-ce plus dur de performer avec une ligne offensive mauvaise, mais avec de bons receveurs, ou l'inverse? Alors, je sais même pas. Oui, c'est un peu ça. Thomas, tu le résumes bien, en un sens. Wilson n'a pas la ligne, mais il a les receveurs. Jackson a la ligne, mais il n'a pas les receveurs. Il a quand même Marquise Brown qui était pas mauvais. Andrews n'est pas un mauvais tight end. Je veux dire, il n'a pas grand-chose à envier. Il est même... Enfin, voilà, Jacob Ellister, c'est pas non plus incroyable. Donc non, encore une fois, je pense qu'il y a un vrai match entre les deux. Moi, si j'avais un vote aujourd'hui pour le MVP, je pense que j'irais sur... sur Lamar Jackson pour la saison régulière, parce que encore une fois, là, il y a les playoffs qui faussent un peu, on est forcément biaisé. Donc, si j'avais dû voter au 31 décembre, je pense que j'aurais mis Lamar Jackson, évidemment, MVP. Mais, encore une fois, si on choisit une équipe offensive totale et que je veux... Si aujourd'hui, on me demande quel quarterback je veux à la tête de mon équipe, je dis Russell Wilson. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas te dire autre chose. Je ne peux pas te dire si on me dit quel quarterback tu veux. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore à quel point Lamar Jackson serait un quarterback assez poli et fini et affûté pour jouer dans d'autres systèmes, avec d'autres coachs, avec éventuellement des linemen qui seraient moins bons ou avec éventuellement un joueur au sol qui serait moins bon. Et là, c'est un peu l'inconnu si on se met dans ces conditions-là. Donc, si je lance mon équipe encore une fois dans une saison comme ça, je préfère avoir un quarterback dont je sais que, en gros, que la ligne soit bonne ou pas et que le jeu au sol soit bon ou pas, bah, il me mettra dans les matchs, quoi. Donc c'est vraiment pour ça. Après, encore une fois, il y a débat sur la saison. Sur la saison, Lamar Jackson est à mon avis le MVP. On a vraiment deux niveaux. Je pense que sur la saison, Lamar Jackson était le MVP. Mais si aujourd'hui vous me demandez quel quarterback je veux dans mon équipe, je dirais Russell Wilson. Donc c'est probablement ça le plus contradictoire et le plus compliqué à gérer là-dedans. Mais je pense que voilà, on est dans un débat qui est ouvert, en tout cas. On est dans un débat qui est ouvert. N'hésitez pas à dire qui vous prendriez. Je vois des supporters de Russell Wilson. Julien, il est là, oui. Alors, Julien, donc, qui est l'artiste qui a réalisé la toile d'Aaron Rodgers, et tu demandes si ça va porter bonheur ce soir. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Je me disais, pour l'instant, on a Aaron Rodgers toutes les semaines, et il continue. Souvent, on dit que je porte la poisse. Peut-être que la toile de Julien dans le décor va finir par emmener les Packers jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, ça marche. Wilson sans aucun doute, Wilson, allez, bon, encore une fois, c'est divisé. Moi, je vous dis, MVP, on va dire MVP Lamar, comme ça, allez, c'est la fête, tout le monde gagne. MVP Lamar Jackson, si je dois en avoir un dans mon équipe aujourd'hui, c'est Russell Wilson. On passe un peu aux coureurs, évidemment. Alors, Flo 07, Russell Wilson pour le leadership, Romnino Lamar à 100%. Voilà. N'hésitez pas à dire aussi hein, si vous le prendriez dans votre équipe ou si c'est plutôt le MVP ou donnez votre choix pour chacun, n'hésitez pas. On passe au coureur, évidemment Derrick Henry, meilleur coureur de la saison statistiquement, celui qui a gagné le plus de yards au sol. Et alors c'est d'autant plus facile pour moi de mettre Derrick Henry dans mon équipe All-Pro parce que j'ai quand même pris la structure All-Pro, hein, évidemment. Donc c'est d'autant plus facile de mettre Derrick Henry running back qu'il y a une position flex qu'ils ont ajouté aux équipes All Pro et qui évidemment là du coup revient à Christian McCaffrey. Voilà, vous voyez, vous êtes plusieurs à mettre McCaffrey et Derrick Henry. C'est pareil, là on fait un truc où tout le monde gagne. Derrick Henry en running back et Christian McCaffrey dans cette position flex créée pour les équipes All Pro, il y est obligatoirement. Josh Jacobs dit Flo 07. Dans les années à venir, ça va venir, mais en tout cas, il a fait une très belle saison rookie. Donc, on est sur Derrick Henry running back, sur Christian McCaffrey en flex. Allez, on va passer à la ligne avant les receveurs, comme ça on va... Derrick Henry et Lamar Jackson dans la même équipe, on dirait un match universitaire avec l'US Army, dit Taras Belder. Oui, ça c'est sûr. Donc, la ligne. Alors, la ligne, c'est pas forcément le plus simple parce que il y a des bons candidats sur la plupart des postes. Quel est votre left tackle préféré? Alors, Nick Chubb en mention, ça c'est vrai. Si, ça c'est vrai. Dalvin Cook pour Florian, bien joué, c'est vrai aussi. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Là, on se donne des noms. Je vous colle rien obligatoire. Left tackle, alors Guilhem, on est du même avis. C'est Bakhtiari. En effet, moi, ça aurait été mon choix. Pour Green, qui est donc le left tackle de Green Bay, on va voir. Tunsil, c'est pas un mauvais choix aussi, Florian. Tyron Smith, bon, c'est des noms qui reviennent beaucoup. Là, alors, sur la saison, pour le coup, j'ai vraiment fait sur la saison. David Bakhtiari, Ronnie Stanley. Et moi, j'ai un petit. Je trouve qu'il a été un peu oublié, c'est Anthony Castonzo, des Colts, qui est un très bon left tackle et que j'avais envie de mentionner. Et je crois qu'il est free agent en plus, Anthony Castonzo. À ne pas oublier pour les équipes qui en auraient besoin. Corrigez-moi si je dis une bêtise sur le chat, mais je crois qu'Anthony Castonzo est free agent. Il y a sûrement un supporter des Colts qui doit le savoir. Mais voilà, donc je dirais Bakhtiari en 1, et puis derrière, ça pourrait être aussi Ronnie Stanley qui a fait une bonne saison, ou Anthony Castonzo des Colts. Right tackle, tackle droit, je devrais dire en français. Le tackle droit, bon, bah, je vais être d'accord avec les équipes All-Pro, c'est Ryan Ramsey des Saints, qui est évidemment en charge de la protection de Drew Brees et du jeu au sol. Alors ça a été un peu moins fort cette année hein, quand même dans le jeu au sol, avec Alvin Kamara et les autres, mais je pense que Ryan Ramsey reste quand même plutôt...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Plutôt une des références à son poste, Mitchell Schwartz aussi, hein, ça aurait pu être pas mal. Je vois citer Orlando Brown, n'hésitez pas encore à mettre des noms. Et il y a Colin qui demande comment est-ce qu'on juge un tackle ou un garde. Alors il y a quelques stats, notamment les sacs autorisés, mais après c'est vrai que c'est des performances qui sont évidemment plus difficiles à juger, en tout cas il faut plus les regarder. Et c'est pas toujours facile à faire, hein. Honnêtement, moi, je vous le dis franchement, moi qui regarde des matchs depuis 10 ans, j'ai pas tout le temps le truc de regarder les lignes, on suit le ballon, on est un peu comme tout le monde aussi. Donc voilà, mais donc il y a quelques stats, et après, bah, c'est de l'œil aussi, et c'est aussi voilà, des choses. C'est des performances d'ensemble, on voit après combien de sacs sont autorisés à la ligne, s'il y a de la pression à l'intérieur, pas à l'intérieur, le nombre de quarterback hits, les pancakes, oui en effet Nicolas, comme le dit Nicolas dans le chat, donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc Ryan Ramsey à droite, à l'intérieur de la ligne, on va mettre Jason Kelce au centre, le centre des Eagles, qui est le frère hein, de Travis Kelce qui joue ce soir avec les Chiefs. Left guard, on va mettre Quentin Nelson. Bon, il y a du beau monde, hein, Indianapolis sur la ligne maintenant. C'était pas forcément le cas il y a quelques années. Mais Quentin Nelson, alors Travis Frederick, c'est aussi une des références. Hein, Clément a raison. Et Travis Frederick, une des très belles histoires parce qu'il n'avait pas joué l'an dernier à cause d'un syndrome de Guillain-Barré. Il est revenu quand même cette année, donc c'est assez énorme. Donc Quentin Nelson, Martin aussi fait partie des références. Mais Quentin Nelson, évidemment, maintenant c'est posé. Marshall Yanda, c'est aussi parmi les références. Et à droite, garde droit, Brandon Brooks, qui en plus permet d'être notifié parce qu'il n'avait pas été mentionné dans les équipes All-Pro. Et pourtant, Brandon Brooks, qui est quand même un des meilleurs gardes de la ligue et qui évolue à Philadelphie. Donc j'ai mis Quentin Nelson à gauche, Brandon Brooks à droite et Jason Kelce au centre de la ligne. Les receveurs, j'en ai bah, deux. Je ne sais même pas si j'ai 11 joueurs dans mon attaque. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah si, j'en ai 12 parce que j'ai le flex. Le left tackle, Cyril, c'est David Bakhtiari. Donc, voilà, les receveurs. Merci beaucoup à Stanislas qui me rappelle que c'était Michael Thomas, mon premier choix. Alors évidemment, Michael Thomas, il est... C'est impossible de ne pas mettre Michael Thomas dans son équipe. Il vient de battre le record du nombre de réceptions sur une saison avec 149 réceptions pour 1725 yards et 9 touchdowns. Voilà, c'est énormissime, il n'y a rien à dire là-dessus. Sur le numéro 2, je trouve ça moins évident. Il y a Devante Adams. Alors, Devante Adams, c'est dur parce qu'il a été blessé une partie de la saison. Donc, il n'a pas les stats, mais en effet, il a fait des bons playoffs. Moi, je suis parti sur DeAndre Hopkins. Pierre citait Julio Jones aussi. C'est le duo qui est là derrière et qui était le duo de tête hein, ces dernières années. DeAndre Hopkins est quand même à 104 réceptions pour 1165 yards et 7 touchdowns hein, cette saison. Donc c'est, et surtout dans une attaque de Houston qui n'est quand même pas un modèle de fluidité. Donc voilà, la Con Treadwell en numéro 2, Sylvain me connaît bien. Et alors il y a quelqu'un qui le cite, c'est Sissi qui le cite, c'est Mike Evans. En effet, moi ça aurait... C'est un peu ma mention spéciale à Mike Evans. Il est à 67 réceptions, 1157 yards, 8 touchdowns dans 13 matchs seulement. Alors oui, on oublie DJ Moore dans les Titans de Carolina, Di Valentin, c'est vrai. Chris Godwin fait une très belle saison. Il est All-Pro, je crois, équipe 2, si je ne dis pas de bêtises. Lockett est bon aussi, enfin voilà. Mais je trouve Mike Evans particulièrement impressionnant d'année en année. Il fait les stats, il fait le boulot. Ce qui le sépare peut-être de DeAndre Hopkins, j'ai vérifié un peu avant l'émission, c'est l'efficacité, c'est-à-dire que Mike Evans a été ciblé 118 fois cette saison pour 67 réceptions. Donc il a un taux de réception qui est quand même un peu moins élevé qu'un DeAndre Hopkins, qui lui a été ciblé 150 fois pour 104 réceptions. Encore une fois, c'est pareil, je ne suis pas sur le nombre de... Dans les 20, ah, quoique, c'est pas très loin. C'est pas très très loin, on dirait. Non, Evans ne brille pas que grâce à Winston Ijinu. Je suis pas tout à fait d'accord. Il brille depuis un moment. Il a brillé avec Fitzpatrick. Mike Evans, il faut quand même respecter la stat. Il fait que des saisons à plus de milliards depuis qu'il est arrivé dans la ligue. C'est un très très bon receveur qui peut aller chercher des ballons dans les airs sur à peu près n'importe qui. Je suis en train de me mettre ses stats devant les yeux. Depuis 2014, il fait 1051, 1206, 1321, 1001, 1524, 1157. Il a 48 touchdowns en 6 saisons. C'est un très, très, très bon receveur, Mike Evans. Donc non, non, c'est, moi, je, honnêtement, voilà, alors, évidemment, il est dans une attaque qui fait des yards, mais il l'aide aussi à faire des yards, quoi. Donc franchement, non, je reste très très convaincu. Moi, ce serait ma mention spéciale. Il n'a pas fini la saison, il a manqué les trois derniers matchs. Donc voilà. Tu prends les meilleurs, peu importe le style de receveur. Dijon Bleu, oui, là pour le coup, j'ai pris comme ça. Mention pour Amari Cooper, je ne suis pas tout à fait d'accord. Avec Gus, il a tendance à disparaître quand même, Amari Cooper. Et là, il a fait une fin de saison qui était quand même assez apocalyptique. Donc non. Ah pardon, Ijinu. Autant pour moi, je n'avais pas saisi que c'était une vanne sur Winston. Excusez-moi. C'est dans le flow, des fois, c'est dur de saisir les secondes. Geoffrey Pinson qui dit Patrick Ricard. Oui, j'ai pas fait de fullback. Dans les faits, j'aurais pu mettre un fullback à la place du flex si j'avais voulu faire une vraie équipe. Patrick Ricard, rien que pour son nom, de toute façon, mérite d'être dans toutes les équipes All-Pro. Donc voilà pour les meilleurs joueurs offensifs de la saison. On va revenir à vos questions. On va parler. Ah, mais oui, j'ai pas fait le tight end. Pardon, j'avais mis George Kittle. Parce que c'est en fait ça se joue avec Travis Kelce, évidemment. Je vois qu'il est cité. La différence que je mettrais là-dedans, c'est que pour moi, George Kittle est quand même de facto le receveur numéro 1 de San Francisco, alors que Kelce bénéficie quand même aussi. Alors bénéficie, c'est utilisé très largement, évidemment qu'il crée lui aussi des espaces, mais il a quand même autour Tyreek Hill, il a quand même autour Sammy Watkins, Mecole Hardman, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de matos à Kansas City, donc ils sont imprenables, mais Kittle lui est vraiment un receveur numéro 1, avec l'attention qui va avec. Il a 85 réceptions, 1053 yards et 5 touchdowns cette année. Je pense que honnêtement, ouais, pour moi c'est le numéro 1 sur cette année, mais les deux sont évidemment excellents. Vos questions, et ben, n'hésitez pas à en mettre. Moi, on va commencer à parler quand même un petit peu des matchs de ce soir. Parce que, alors là, c'est le moment, parce que encore une fois, je vous le disais, il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent en replay et en podcast le lendemain, et je vous invite à le faire. Et du coup, c'est toujours la séquence qui est toujours rigolote à écouter pour les gens qui nous écoutent en replay, parce que là, ils écoutent le lendemain ce que j'ai dit sur les matchs dont ils connaissent.
Ah ben voilà.
Ah bah voilà. Alors normalement ça devrait revenir. Regardez ça, on a même réussi à reprendre sur le même stream, si c'est pas trop bien. Non mais écoutez, je sais même pas comment j'ai fait. Mais pour une fois, c'était la première coupure de la saison. Elle arrive à 44 minutes d'émission sur l'avant-dernière. Non mais bon, allez, en tout cas c'est revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai cliqué sur reprendre la diffusion et ça a marché. Donc on disait quoi? Eh ben oui, j'avais pas payé la facture. On disait que, alors je sais pas ce qu'on avait raté. Du coup je reprends du début juste sur le Chiefs Titans. Donc je disais que les deux équipes se sont affrontées en saison régulière, que les Chiefs ont vu leur field goal de légalisation bloqué à la dernière seconde et que le scénario du match avait été sensiblement similaire à ce qu'on attend ce soir, c'est-à-dire Derrick Henry avait gagné beaucoup de yards au sol, Patrick Mahomes avait gagné beaucoup de yards dans les airs et ça s'était joué à pas grand-chose. Est-ce que ça va être exactement pareil ce soir? C'est difficile évidemment à savoir, mais les ingrédients sont réunis. C'est-à-dire que ça va être dur de tenir Travis Kelce et Tyreek Hill du côté de Tennessee, et ça va être dur de tenir Derrick Henry du côté de Kansas City, même si, je le répète, Chris Jones est actif, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas la faute du maillot de Brady, oui, dit Cédric, pour la coupure, il n'y a plus de maillot de Brady. Donc, en tout cas... je le disais, ça va être un très beau match parce que Derrick Henry fait quand même vraiment plaisir à voir quand il est en rythme. Il rend quand même le jeu au sol hyper fun à voir. Et du côté de Kansas City, cette attaque dans son ensemble est très fun à voir. Donc on a le potentiel pour avoir un match quand même assez explosif et plutôt sympa. Celui qui prendra le contrôle gagnera, dit Pierre. Un des facteurs X, ce sera aussi ça, on l'a un peu évoqué avec Raphaël dans l'émission de jeudi en preview, c'est que pour une fois, d'habitude on dit toujours il faut que l'attaque reste sur le terrain pour garder le quarterback adverse loin du terrain. Souvent on disait ça des Tom Brady, même dans Patrick Mahomes d'ailleurs. On disait il faut manger le chrono, comme ça l'autre attaque n'est pas sur le terrain. Ben là, paradoxalement, on a une équipe de Kansas City qui va devoir essayer de garder Derrick Henry en dehors du terrain. Donc ça va être quand même très très important. Je voyais quelqu'un qui parlait des safety des Titans. Bon, il y a Kevin Byard hein, notamment qui joue très très bien, mais il y a un vrai défi avec Travis Kelce. Touchdown de Patrick Mahomes sur une no-look pass dans les toutes dernières secondes du match pour la victoire des Chiefs, ce serait plutôt pas mal. Ce serait plutôt pas mal. Nicolas qui dit les Chiefs ne pourront pas refaire le même démarrage que la semaine dernière. Ça, c'est sûr. Bon, après, on sait ce que c'est. Sortie de semaine de repos, ça arrive un petit peu. Hein, les pannes au démarrage. Pronostic, un pick six lancé par Mahomes. Wow, vous êtes aventureux quand même. Donc ça, c'est le premier match. Et au niveau du prono, j'ai donné les Chiefs dans l'émission, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais rester sur les Chiefs, puisque je rappelle que je les ai mis vainqueurs du Super Bowl dans mon bracket et que pour l'instant, ça tient toujours. Le deuxième match, celui-là, il est pas mal du tout aussi. Il pourrait être plus fermé. Packers 49ers. Alors je devrais dire 49ers Packers parce que ça se joue en Californie, il va faire un peu plus beau. C'est un match très intéressant parce que là, pour le coup, les deux équipes se sont jouées en saison régulière aussi, mais les Niners avaient explosé Green Bay. Donc ça va quand même être intéressant à suivre. Est-ce que les Packers vont réussir à inverser la tendance? On l'a dit aussi dans l'émission, il va falloir mettre de la pression sur Garoppolo, il va falloir réussir à stopper ce jeu au sol qui est très très bon, qui est très créatif, avec une ligne qui ouvre vraiment bien les brèches. Donc voilà, mettre la pression sur Garoppolo, forcer Jimmy Garoppolo à avoir des passes dangereuses et à avoir des lancers un peu plus compliqués. On sait que Jimmy Garoppolo peut prendre des risques. Alors moi je le dis depuis deux semaines, mais en gros, ça peut être un avantage incroyable parce qu'il n'a pas peur et qu'il n'aura pas peur de faire des gros lancers en fin de match ou pendant tout le match d'ailleurs. Mais ça peut aussi être un inconvénient parce que des fois, ne pas avoir peur, c'est aussi une petite part de danger et prendre un petit risque que d'autres ne prendraient peut-être pas et peut-être faire une erreur qui coûtera le match. Ça va être important pour Green Bay de voler des ballons. La défense, elle encaisse quand même des yards, même si elle a eu des bons matchs, mais elle encaisse des yards. Il va falloir voler des ballons. Ils ont des playmakers, ils ont Preston et Zadarius Smith qui vont aller au sac et qui en tout cas sont les meilleurs sackers. Ils ont tous les deux 12, au moins 12 sacks cette saison. Ils ont des Jair Alexander qui peuvent aussi faire du grabuge. Donc voilà, il y a des choses à faire. Ça aurait été pas mal qu'ils aient des linebackers un petit peu plus capables. Blake Martinez est un bon plaqueur, mais pas forcément un grand intercepteur. Jimmy Garoppolo a tendance parfois à oublier les linebackers. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs contre Minnesota quand il s'est fait intercepter par Ike Kendricks. Donc voilà, c'est vraiment un match vraiment passionnant parce qu'il pourrait être... Il peut être ouvert comme il pourrait être très fermé. Il y a toujours un gros point d'interrogation sur l'attaque de Green Bay, savoir... Est-ce qu'ils peuvent vraiment démarrer et faire un match plein? Donc voilà, les deux coaching staff se connaissent très bien. Matt LaFleur, le coach des Packers, a énormément travaillé pour Kyle Shanahan dans d'autres boulots. Et on a appris, donc mais je crois que c'est Robert Saleh du coup. En tout cas, il y a un des membres du staff des 49ers qui était le témoin de mariage de Matt LaFleur. Et le frère de Matt LaFleur est coordinateur du jeu de passe des 49ers. Enfin voilà, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Donc le pronostic, alors. C'est ce qu'on a dit dans l'émission, nos pronos que vous voyez sur le site, et on le répète à chaque fois, et je le mets un peu dans l'article, ils sont aussi basés sur la tactique, parce que c'est un concours de pronostics, donc il y en a qui sont en retard, donc des fois ils mettent le contraire des autres pour essayer de grappiller des points, c'est aussi pour ça. Moi je vais vous dire, donc j'ai mis les Packers, parce que je voudrais grappiller des points à Grégory, parce qu'on est à égalité. Mais dans les faits, je trouve que les 49ers sont plus armés. Donc, si je devais mettre de l'argent, ce serait plus sur les 49ers, honnêtement. Voilà donc pour les pronos de la soirée. On va parler un petit peu cote. Derrière, on refera vos questions. Et puis, on terminera avec un peu de fronton et d'autres questions. Donc, les cotes de la soirée, je vais sur la page moi-même. Et on va parler de tout ça. Je vous rappelle, il y a toujours les articles code de Sébastien aussi sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il a toujours des bons plans. Alors, on avait dit, sur les matchs de ce soir, les codes des outsiders sont très élevés. Et je trouve qu'elles sont très élevées pour des finales de conférence. Donc, si vous croyez en l'équipe qui est à l'extérieur, puisque les outsiders sont à l'extérieur, franchement, vous pouvez y aller. Regardez, moi, par exemple, je vais jouer l'outsider. Alors, je vous ai dit, si je devais mettre de l'argent, je le mettrais sur les 49ers. Oui, mais à cette cote-là, je préfère jouer les Packers, parce que les Packers à 3,95, ça me semble vraiment, vraiment, comment dire, ils n'ont pas une grosse confiance en Green Bay, mais quand même, dans une finale de conférence, quand on prend en compte l'expérience, je trouve que c'est un petit peu sous-estimé ces Packers. Et puis, allez, je vais en faire une audacieuse. On va peut-être me tomber dessus, on va peut-être me dire que j'y crois pas assez. Mais je vais vous dire que ce soir, les Chiefs gagnent. Mais non seulement ils gagnent, mais ils gagnent de... Je vais le noter, je ménage mon effet de surprise. De 11 points ou plus. Je vous prédis un Chiefs, c'est là où vous allez vous marrer si vous l'écoutez en replay demain. Je vous prédis un Chiefs qui prend un gros avantage, qui pousse les Titans à la faute et qui emballe le match. Parce qu'on rappelle, hein, cette attaque des Chiefs, elle a quand même marqué 6 ou 7 touchdowns de suite, hein, lors du dernier match. Elle avait eu un petit temps de démarrage, mais après, une fois qu'ils sont lancés, ils sont très 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 durs à arrêter. Donc franchement, voilà, le combiné des deux, 5 euros, misé 40,49 euros, gagné pour nos cotes chez Unibet. Je regarde un petit peu, allez, le premier match, on va regarder le marqueur de touchdown sur le premier match, Derrick Henry, c'est 1,55, ça me paraît plutôt pas mal. Derrick Henry 1,55, Sammy Watkins à 2,95, si vous êtes un peu aventureux, Mecole Hardman à 3,90, c'est toujours dur de jouer les seconds, comment dire. Il y a beaucoup de monde dans l'attaque des Chiefs, donc ils peuvent être nombreux. Ce ne serait pas étonnant, un touchdown de Mecole Hardman ou de Sammy Watkins dans ce match. Après, voilà, ça vient dans cette attaque des Chiefs. Évidemment, c'est moins risqué de jouer Travis Kelce à 1,73 ou Tyreek Hill à 1,78. On peut dire Kelce à 1,73, c'est pas mal aussi. Donc ça peut être... ça peut être pas mal. Donc 1,55 Derrick Henry, 1,73 Travis Kelce. On va être là-dessus. Mecole Hardman, oui, donc je le disais, elle était plutôt costaud, hein, la cote Mecole Hardman, c'est 3,90. Donc si vous croyez un petit touchdown de Mecole Hardman, c'est quand même pas mal. Et je vous rappelle les cotes pour les équipes favorites, parce que je vous ai donné les outsiders, mais si vous vous sentez confiant sur le favori, vous voulez mettre un peu plus pour faire un pari en théorie un peu moins risqué, les Chiefs sont à 1,30 et les 49ers sont à 1,28. Les Chiefs à 1,30, c'est pas mal. Les Chiefs à 1,30, ça me semble pas mal. Voilà donc pour les cotes, les questions. Hein. Ben je vais présenter le fronton tranquillement et puis derrière, on se garde 7 minutes de questions quand même. On est pas mal. Si les Packers battent les Niners, ils gagnent le Super Bowl contre n'importe qui des deux autres, des Tars Welder, ouais, je suis pas sûr. Moi, je veux gagner le costume rouge de Minshew. Pourquoi tu ne le fais pas gagner? Ah, le costard. Ah oui, j'avais oublié le costume. Excusez-moi, je prends un tout petit peu d'eau. Et on enchaîne. Donc, le fromage. Pendant que je disais... Hop là, alors il est encore emballé. Bougez pas, je vais faire un unboxing de fromage. Je suis trop Jones. Je vais faire des vidéos d'unboxing de fromage. Je vais révolutionner l'unboxing game. Hop là. Alors, mais en fait, ça vaut pas le coup, les unboxings de fromage, si vous avez pas l'odeur, en vrai. Hop. Il est un peu... il est un peu moins coulant que la dernière fois. J'ai testé ça la semaine dernière, je vous l'ai pas mis à l'antenne, mais du coup, j'en ai repris un exprès. Alors, ça, c'est très beau. Ça, c'est très, très beau. On va voir. Alors, ça vient d'où, cette tradition du fromage, Jean-Baptiste? C'est une très bonne question, en fait. Je crois que la première année du fauteuil, on le faisait pas. Hop là, tuc tuc tuc, je le baisse un peu. Ouais, brioche, c'est vrai, c'est pas bête. Donc ça, c'est un fromage de chèvre. C'est un villageois. C'est un villageois et ça sent très très fort et c'est très très bon. Et encore, il est un peu moins raffiné. Donc, c'est un villageois, un très très bon fromage de chèvre que je vous recommande. Oui, donc d'où vient la tradition du fromage? Je sais pas. La première année, on le faisait pas. Et peut-être, je sais pas, c'est parti. Vous savez comment ça part hein, dans cette émission. Des fois, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, je sais plus, l'année dernière, du coup, j'avais dû en amener un sur la première émission. Et puis, c'est resté. Mais maintenant, quand je les prends pas, on me le fait remarquer. Donc, je me sens obligé d'aller chez le fromager chaque semaine. Donc, vos questions. Adrien, c'est gentil cette question, Adrien. Alain, on t'aime, pourquoi a-t-on envie de te faire des bisous et des câlins? Je ne sais pas, ça doit être ma calvitie, vous avez envie de me consoler peut-être. Non, je ne sais pas. Jamais un petit verre de vin avec mon fromage, Emeric. Si, ça m'arrive. Après, je suis pas un grand amateur de vin, je vais pas mentir. Enfin, j'y connais pas grand-chose. Enfin, c'est juste que j'y connais pas grand-chose. Et j'aime pas trop le vin rouge. Voilà, je suis plus blanc. T'as déjà rencontré Jean-Pierre Gagic, demande Charles. Non, on a parlé par message et tout ça, mais on s'est jamais rencontré physiquement. La fleur ou Shannon, question de Gus. Bah plutôt Shannon pour l'instant au niveau des profs qu'il a fait. Hors prono et neutralité journalistique, laquelle des quatre équipes aimerais-tu voir gagner et pourquoi? Deuxième sac de Rodgers 10 ans plus tard, retour nostalgique des 49ers, surprise Titans. Moi je l'ai déjà dit, évidemment, un Super Bowl Packers Chiefs, ça a de la gueule parce que c'est le remake du Super Bowl 1. C'est évidemment, on va pas se mentir, les quarterbacks sont quand même les stars de ce jeu. Donc Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, ça a quand même de la gueule. Donc voilà, je pense que je suis plutôt là-dessus. Ouais, je suis plutôt là-dessus. Après, les 49ers, c'est une équipe mythique, donc c'est cool aussi. Les Titans, c'est une grosse surprise, donc c'est cool aussi. Ouais, non, on n'a pas eu d'énormes surprises ces dernières années. Je remonte peut-être aux Ravens 2013, qui était un peu un beau parcours. Là, si les Titans allaient au bout, ce serait quand même assez incroyable. Qu'est-ce que je pense du rosé, dit Colin. Pareil, je suis pas ultra fan. Ouais, rosé et rouge, c'est pas trop mon truc. Parfois, quand un joueur sort du terrain, le chrono continue. Quand même, peux-tu rappeler les règles quand le chrono continue ou s'arrête? Question de Gérant Bleu. Quand il sort du terrain, le chrono s'arrête normalement. Et quand il reste sur le terrain, qu'il est plaqué dans le terrain, le chrono continue. On va rester, c'est pour faire à peu près simple, je pense qu'on peut rester là-dessus. On a eu des surprises, pas de Patriotes, c'est vrai que ça arrivait. L'accord Sancerre blanc avec du chèvre, c'est le top, dit Clément. Ben voilà, je note. C'est vrai que le Sancerre, c'est bon. Alors, qui dans TDA avait misé les Titans au Super Bowl l'an dernier? Ben, personne, clairement, on va pas se mentir. Alain avait dit avant le début de la saison que Green Bay serait au Super Bowl. Bah voilà, bah je suis content. Dans ce cas-là, j'avais dit Green Bay au début de l'année. Mais ça me dit quelque chose, mais j'avoue que des fois, je dis tellement de bêtises que je sais plus. Ouais, alors je sais que vous êtes marqué par la pub pour l'assurance, en effet, pour le Chiefs Packers aussi. Est-ce qu'on va suivre la NFL? Alors, Enerit, vous êtes plusieurs à poser la question, donc je vais pas l'éluder. A priori, on va faire comme c'était l'AAF l'an dernier, on va faire un point hebdo. Voilà, pour l'instant, on va faire un point hebdo, c'est ce qui est prévu pour le moment. Après, on va voir comment ça se passe, comment ça évolue, etc. Hein, mais pour l'instant, en tout cas, on est parti sur un point hebdo. Tuc, 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 il faudra faire des scans d'écran pour les codes des équipes avant la saison. Remake du Super Bowl 1, oui. En sortie de boîte, tu dois te battre avec une équipe, tu choisis les frères Watt ou les frères Bossa? Question d'adresse. Je sais pas, moi je me bats pas, je suis non violent. Mais après, pour la blague, ah, je pense que les frères Bossa ils me font un peu plus. Ah ouais, les frères Bossa ils m'intimident un peu plus. Je sais pas, les frères Watt ils ont un petit côté. Ouais, non, je dirais les frères Bossa. Ce serait pas le moment ou jamais pour Andy Reid. Si, si, bah si, c'est comme ça qu'on a titré l'émission de jeudi, donc on peut pas être plus d'accord avec toi. Ah, les Watts, ils sont 3, ouais, Hervé, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Je donne combien de semaines à la XFL avant la faillite, dit Constant. Bah, c'est un peu pour ça qu'on a un peu. On est un peu dubitatif pour l'instant. Donc, après, la XFL, alors la XFL est quand même mieux organisée, il y a des plus gros droits télé, si j'ai bien compris. Donc voilà. Avec le camembert, surtout pas de rouge, tente le cidre, bon accord. Et va falloir que vous m'envoyez des mails avec ça, parce que je vais pas tout retenir, et le chat après, je le retrouve plus, mais c'est une bonne idée aussi, ouais. Oui, bah non, ça, Flo 07, on peut plus. Aaron Hernandez, malheureusement, non, on peut plus. Les frères Gronkowski, oui aussi. Quel joueur pour te défendre? Bon, bah là, on a fait le tour. Hein. Qui est le proprio des Chiefs? Bah, c'était, oui, bah, c'est la famille Hunt, si je dis pas de bêtises. Je me bats contre les Bossa avec les Watts. Ils sont trois, dit Gaël. Bon. 4 ou 5 semaines, encore une fois, je sais pas trop, je sais pas trop. Camembert cidre, normalement, bon, bah, faudra que j'essaye, visiblement, le camembert cidre. Un concours de hot dog avec un joueur de ligne offensive, je choisis qui, Adrien? Oh, voilà, je sais pas. Allez, pour les mails, il y a un formulaire de contact sur le site, hein, vous faites contact, y a pas de souci. Quel fromage au Super Bowl, dit Nicolas? Alors, vous ne le dites pas, je ne sais pas s'il regarde, et après je vous laisse parce qu'il est 21h. Mais j'aurai une petite surprise pour mes invités. Voilà, je ne dis pas plus, mais les fromages seront adaptés aux invités. Normalement, je suis en train de préparer mes petites notes pour essayer d'adapter mes fromages à mes invités. C'est tout ce que je peux dire. On est à peu près, il est 21h, donc je ne vais pas tarder à vous laisser. Les matchs commencent à 21h05. Donc on a encore quelques minutes. Pour le Super Bowl, non, on ne vient pas tous chez moi. Désolé Clément, ça va être compliqué. Pizza au fromage, Tarsvelder, oui aussi. AOP d'Auvergne. Est-ce qu'on aura assez de champagne? Ouais, a priori, on devrait être pas mal. Merci Flo. Merci encore. Alors pour tout dire Flo, je n'ai pas encore récupéré le colis, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais je promets, je te dis ça très bientôt. Mais merci encore d'avance parce qu'on sait que c'est génial comme tous les ans. Donc gros merci. Bisous Adrien, bon match à toi en effet. Fromage de Green Bay. Ouais, mais alors, Enerit, il faut pas qu'on se mente entre nous, tout ce temps qu'on est. Hein. Les fromages ricains, on peut se le dire, on est entre nous. Bon, je veux pas être interdit de terrain noir, mais c'est de la merde. Pour citer un grand philosophe de Kaamelott, hein, voilà, c'est pas du fromage les trucs qu'ils vendent aux États-Unis. Donc voilà. Je vois que ça réagit. Non, mais oui, les fromages jaunes, là, j'ai vu une vidéo l'autre jour à Green Bay, ils montraient les étalages de fromages, mais c'est immonde, on dirait des plaques de beurre qui sont entreposées, quoi. Donc non. Voilà, fromage américain. C'est pas faux, dit Romain. Non, mais ouais, c'est horrible. C'est pas des trucs. Pour l'anecdote, j'étais allé pour Basket USA justement à Los Angeles pendant l'été. Et donc, il y avait un buffet, il y avait un buffet avec des fromages. Et je regarde le mec qui s'en occupait et je lui dis, excusez-moi, c'est quoi ça? Et il me dit, c'est du brie. Ouais, bon, j'étais un peu dubitatif, sachant, étant moi-même briard, si vous voulez, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et c'était évidemment infect, hein. C'était pas du brie, on peut pas appeler ça du brie. Je vous interdis d'appeler ça du brie, voilà. Donc, c'est ni un brie de Meaux, ni un brie de Melun, rien du tout. C'était même pas un fromage, quoi. Bon. Donc, en tout cas, voilà. Mais un jour, il faudrait qu'on se fasse un délire. Faudrait que je trouve une. Alors, je pense pas qu'il y ait des fromagers dignes de ce nom en France, qu'importe les fromages américains ou ce qu'ils appellent des fromages. Mais faudrait que je trouve un délire de trouver des frometons de là-bas pour les goûter en live. Ou alors, faudrait que je demande à Raoul s'il peut en ramener là du Super Bowl ou un truc comme ça. Mais pour qu'on. Mais je voilà. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Après, Aralys dit le Shropshire anglais est pas mal. Oui, le Shropshire, c'est très bon. Et le Blue Stilton, c'est pas mal aussi côté anglais. Non, non, il y a des. En Angleterre, il y a des choses. Mais ouais, ricain et. Non, c'est l'Amérique du Nord, c'est pas le pays du fromage, hein, quand même. On va pas se mentir. Bon, on va vous laisser. Parce qu'il est 21h03 et que vous avez des choses à faire. Je vois quoi? Alors, tu m'en ramènes, Charles. Bah, c'est gentil. C'est de la graisse de liposuccion, dit Géant Bleu. C'est immonde, mais c'est plutôt bien vu. Toute la bouffe américaine, en général, ça fout la gerbe, dit Yannick. Oui, on va pas se mentir. Hein. Moi, vous avez vu, je suis chauvin. J'ai mis un petit liseré bleu, blanc, rouge sur l'ordinateur, d'ailleurs. C'est parce qu'on a la meilleure bouffe du monde. Faut pas rigoler. Oui, non, c'est pas le pays de la gastronomie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. Ouais, tiens, c'est pas bête. Wawa qui dit le défi pour le perdre dans des pronos, c'est goûter du fromage US. C'est pas bête. Bon, alors, attention. Avant de partir, je vais lire ça quand même. Trappe d'Échourgnac. Ce fromage se caractérise par son goût de noix. Sa croûte est fruitée à la liqueur de noix. Ouh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, il est 21h05. Ça veut dire que c'est l'heure des finales de conférence. La nuit la plus longue de l'année. On est debout jusqu'à au moins 4h30, allez, on va dire, grosso modo. et un peu plus pour écrire les résumés et tout ça. Donc, très, très bon match à vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau fauteuil. Ce sera à 22h pour le Super Bowl. En attendant, on se retrouve évidemment pour le débrief de ces finales de conférence. Ce sera demain soir. Ce sera en ligne sur le site, comme d'habitude. Merci beaucoup à vous. Très, très bonne finale de conférence à tous. Amusez-vous bien. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.